La Bible nous rapporte qu'après 3 ans et demi de sécheresse, le prophète Élie s'est finalement manifesté pour affronter les prophètes de Baal. Cette histoire qui se trouve racontée dans le premier livre des Rois au chapitre 18 met en scène le peuple d'Israël et le prophète Élie dans une confrontation sur le mont Carmel qui est assez particulière. Ils avaient fait un pacte. On va savoir qui est le vrai Dieu. Vous allez construire vos autels, vous, les prophètes de Baal. Et moi, je vais reconstruire l'autel de l'Éternel. Vous y ferez votre sacrifice, moi je ferai le sacrifice sur le mien. Et le Dieu qui enverra le feu du ciel sur ce sacrifice sera le vrai Dieu. Tout le monde était d'accord. Les prophètes de Baal sont arrivés, ils ont installé leur autel qui était déjà vraisemblablement largement en activité. Ils ont mis le taureau là-dessus, ils ont mis le bois et ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Résultat, pas de réponse. Et ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à crier, ils ont commencé à invoquer, ils ont commencé à devenir hystériques. Ils ont crié partout, ils ont fait le tour de leur autel, dans un sens, dans un autre, debout, à quatre pattes, assis. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient imaginer pour attirer l'attention de leur Dieu. Et Élie, assis à distance, « Eh, les amis, criez plus fort! Il ne vous entend pas, votre Dieu! Je pense qu'il est occupé à quelque chose. Criez plus fort !» Et il criait plus fort. « Eh, votre Dieu, il doit être occupé. Faites quelque chose pour attirer son attention. » Et il redoublait d'efforts jusqu'à finalement se martyriser, se saigner, s'amputer pour que le sang coule et que ça attire l'attention de leur Dieu. Et les amis, il est parti en voyage. Criez plus fort pour qu'il entende ou qu'il soit parti. Ah non, il dort. Réveillez donc votre Dieu, disait Élie. Et Élie avait beau jeu pendant des heures de se moquer de ces gens qui devenaient hystériques autour de leur autel et toujours pas de feu. Ça a duré un bon moment parce que dès le matin, les prophètes de Baal avaient installé leur autel. À midi, Élie se moquait encore d'eux. « Criez, mais criez donc plus fort !» À 3 heures de l'après-midi, Élie dit « Bon, ça suffit maintenant. Arrêtez tout ça. Avec tout ce que vous avez crié, si votre Dieu ne vous a pas entendu, c'est qu'il n'y en a pas de votre Dieu. À mon tour maintenant. Tous ces gens sont épuisés. Ils ont dansé. Ils étaient hystériques pendant toute la matinée. Ils ont marché, couru, dansé, crié. Certains ne peuvent plus parler. Ils sont épuisés. Le silence se fait. Et à 3 heures de l'après-midi, qui est l'heure du sacrifice pour l'Éternel, Élie dit au peuple, approchez-vous de moi. C'est un drôle de spectacle parce que le peuple est là nombreux et il est tout seul. Tout seul. Devant l'échec du Dieu qui ne répond pas. Ce Dieu qui ne répond pas est encore souvent beaucoup adoré de nos jours. Ce Dieu qui nous saigne jusqu'au bout, ce Dieu qui nous fait perdre du temps, ce Dieu dont parle tant. Nos villes ont toutes des temples à ce Dieu-là aujourd'hui et nous ne sommes pas épargnés, ni les uns ni les autres, par l'adoration de ce culte un peu bizarre, le culte d'un Dieu qui ne répond pas. Et Élie, invitant ce peuple, l'invite à venir voir de ses propres yeux ce qu'il va faire. Ne restez pas à la distance, venez proche, impliquez-vous maintenant. Vous avez vu tout ce cinéma qu'ils ont fait toute la matinée. Ça suffit maintenant, approchez ici. Et le peuple approche. Et Élie va prêcher là un sermon en silence. Élie va reprendre les 12 pierres qui constituent l'autel à l'Éternel. Oh, cet autel avait servi autrefois. Il était maintenant en bien misérable état. Ces pierres qui n'ont pas été taillées au burin, ces pierres encore un peu rustiques, il va les prendre les unes après les autres, les 12, et reconstruire l'autel à l'Éternel. Pas un mot. Le peuple est là. Il va couper le bois pour le sacrifice. Il va sacrifier le taureau, le couper en morceaux, nous dit le texte, le poser sur le bois. Et pendant tout ce temps-là, Élie ne dit rien, mais prêche un sermon par le silence. Il relève l'autel de l'Éternel. Vous imaginez le malaise dans l'assemblée, ils sont nombreux. Et puis il y a tous les prophètes de Baal qui sont là encore en train de se remettre de leur saignée du matin. Et il y a tous les autres qui sont encore essoufflés d'avoir crié toute la matinée. Et le peuple est là qui attend. Devant l'échec des prophètes de Baal, le peuple s'attend que quelque chose se passe, que quelque chose de spécial se passe. Et finalement, ayant remonté les pierres, posé le bois, mis sur le bois les morceaux du taureau pour le sacrifice, Élie dit, allez me chercher 4 cruches d'eau. Et vous pouvez voir le regard interrogateur des gens vers qui il s'adresse, parce que c'est la sécheresse. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a même pas d'eau à boire. Et il demande 4 cruches d'eau. Sont-ils allés au pied de la colline pour chercher de l'eau à une source qui coulait encore? Peut-être. Sont-ils allés plus loin jusqu'à la mer que l'on voit depuis ce promontoire rocheux? Peut-être. Parce qu'il devait y avoir sur chaque sacrifice du sel aussi. Mais le chemin est long et le peuple attend. Ils vont revenir avec 4 cruches d'eau et ils vont les verser sur le sacrifice. Et lorsque c'est fait, Élie dit, allez donc en rechercher encore 4 autres. Et le temps passe. Et lorsqu'ils reviennent, ils versent ces quatre cruches d'eau sur l'autel, inondent le sacrifice, mouillent le bois et commencent à remplir le fossé qu'il avait créé autour. On pense que ça suffit, mais non. Il fera chercher 12 cruches d'eau, autant que de pierres. Et il versera ces 12 cruches d'eau sur l'autel, rendant impossible à un petit malin d'arriver avec son briquet et d'allumer le sacrifice par derrière. Non, pas de tromperie, pas d'histoire. Personne ne pourra allumer un feu pareil. Élie va rendre là cette espèce de défi impossible. Et puis, nous dit le texte, il va se tourner vers Dieu dans la prière. Pas d'extase, pas d'excitation, pas de cri, pas d'invocation hystérique, pas de mortification, pas besoin de se faire saigner, pas besoin de se flageller, pas besoin de se martyriser. Il se met à genoux et il prie. Et il dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple connaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Élie est en train de dire, « Seigneur, réponds à ma prière et montre à ces gens qu'ils peuvent te faire confiance, qu'ils le fassent une fois pour toutes et qu'ils reviennent à toi. Amen. Et le feu tombe du ciel et le peuple se recule. Et le feu tombe du ciel, brûle le sacrifice, brûle le bois, brûle, nous dit, les pierres, brûle l'eau qui est dans le fossé. Et quand tout est consumé, il n'y a plus rien. Plus de bois, plus de sacrifice, plus de pierre, plus d'eau, un trou. Dieu a tout brûlé par le feu qu'il a envoyé du ciel. Tout. À quelques mètres de là, l'autel des prophètes de Baal est intact, dégoulinant encore du sang de leurs victimes. Mais là, il n'y a plus rien. Dieu a tout pris. Voilà le Dieu qui répond. Mais la réponse de Dieu dans cette affaire n'est pas simplement d'avoir envoyé le feu du ciel pour brûler tout le sacrifice. La réponse de Dieu dans cette histoire, c'est que quelques instants après, la pluie va venir en abondance en réponse à la prière du prophète. Une pluie qui n'est pas tombée depuis 3 ans et demi. Le peuple va recevoir cet acte de Dieu comme un appel à revenir à lui. Et il va revenir à lui. Ils vont éliminer les prophètes de Baal, vous connaissez l'histoire. Et la pluie va descendre en abondance, en surabondance. Ils n'ont pas vu une goutte de pluie depuis 3 ans et demi. Je sais que cette histoire est directement liée aux prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Directement lié à ces prophéties qui concernent aussi la fin des temps et la pluie de l'arrière-saison. Mais cette histoire en elle me rappelle aussi un autre événement, mais un même appel. Une autre époque, mais une même invitation. Un même appel de Dieu, le même peuple de Dieu. Un même Dieu frustré. Toujours dans l'Ancien Testament, cette histoire d'Élie me rappelle ce passage que vous connaissez bien et que j'aimerais vous lire. Je n'ai pas besoin de vous donner la référence, vous le trouverez vous-même. Où il est dit « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Et vous dites « En quoi devons-nous revenir ?» Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, vous me trompez la nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Autre époque, même appel. Répandre la bénédiction en abondance, c'est ce que Dieu a fait lorsque ce peuple finalement avait accepté de revenir à lui. Et dans cet appel que Malachie lance au peuple de la part de Dieu, se trouve encore cette même invitation à revenir. Mais à aller plus loin qu'une simple acceptation intellectuelle de « Jésus m'a sauvé, alléluia ». Soyons concrets, soyons précis, dit Dieu. Vous me trompez. En quoi? Dans les choses qui vous tiennent le plus à cœur. Dans les dîmes et les offrandes. Mais mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je ne fais pas ce que j'ai promis pour ça aussi. C'est l'appel du Dieu qui répond. Élie avait interpellé le peuple et avait dit « Mais jusque quand est-ce que vous allez continuer à boiter des deux pieds ?» Un coup à droite, un coup à gauche, un coup chez Dieu, un coup chez Baal, suivant comme ça vous arrange. Et il leur avait demandé de s'engager envers le Seigneur d'une façon claire, résolue et pratique. Il leur avait proposé d'abandonner le salut par les œuvres et de revenir à ce Dieu qui nous invite à nous donner à lui par la foi. En fait, ce que Élie avait demandé, c'était d'abord le sacrifice d'eux-mêmes. L'autel, c'était eux, les 12 pierres. Les 12 cruches d'eau, c'était eux. À un moment où il n'y avait même pas d'eau à boire, à un moment où ils mouraient de soif, Élie leur demande d'apporter de l'eau et de la consacrer encore à Dieu, cette eau dont ils avaient tant besoin. Le sacrifice, en fait, c'était eux. C'était le sacrifice d'eux-mêmes. Et dans le texte que nous avons encore lu ce matin, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 8, il était parlé de ces Macédoniens, dont Paul louait la générosité. Mais vous vous souvenez, il disait, en fait, ils se sont d'abord donnés au Seigneur, et puis ensuite, ils ont été généreux. C'est exactement ce que Élie propose au peuple de ce temps-là. Donnez-vous vous-même à Dieu. Ayez confiance dans la promesse de son action et la pluie viendra en abondance. Ce que Malachie et Élie demandent, ce que tous les prophètes de Dieu demandent, ce sont deux choses. C'est un réveil et une réforme. Pour les réveils, nous sommes très forts. Pour les réformes, c'est différent parce que cela implique un changement d'habitude. Et vous savez à quel point nous tous sommes résistants au changement de nos habitudes. Un réveil, c'est toujours possible. On peut se rendre compte à quel point le Seigneur nous appelle. Mais quand il s'agit de changer une habitude pour lui dire à quel point nous voulons répondre à cet appel, les choses sont un peu différentes. Et je crois que nous avons tous dans ce domaine besoin de changer des habitudes. Changer d'habitude dans la manière dont nous nous consacrons à Dieu, dans la manière dont nous faisons le sacrifice de nous-mêmes et dans la manière dont nous le lui disons. Ainsi, par rapport à ce dont Malachie nous parle aujourd'hui, dans le domaine des dîmes et des offrandes, il y a plusieurs motivations pour apporter à Dieu nos dîmes et nos offrandes. Nous ne voyons pas dans le cœur des uns des autres, mais nous voyons dans le nôtre et nous pouvons comprendre que, à différents moments, nous pouvons parfois avoir des motivations différentes pour apporter nos dîmes et nos offrandes. En regardant votre expérience chrétienne, vous vous rendrez compte aussi qu'il y a une progression, un développement dans cette maturité et dans l'état d'esprit avec lequel nous apportons nos dîmes et nos offrandes. Et j'aimerais retracer ces étapes avec vous ce matin rapidement. Imaginez combien il peut y en avoir. Il y en a 7. Dieu nous demande le sacrifice de nous-mêmes. Et nous propose d'être fidèles et de ne pas le voler en apportant nos dîmes et nos offrandes. Bien entendu, Dieu nous a fait comprendre que la dîme lui appartient. Si je garde quelque chose qui ne m'appartient pas, je suis un voleur. Et je peux toujours expliquer cela d'une façon différente. Je peux toujours dire, parce que j'ai gardé ma dîme, que c'est l'accession à la propriété par omission de restitution. C'est bien beau, mais ça ne change rien. Tant que pour nous, la dîme et les offrandes seront une question d'argent, nous n'aurons rien compris au plan de Dieu dans cette affaire. Je le répète, tant que pour nous, la dîme et les offrandes seront une question d'argent, nous n'aurons rien compris au plan de Dieu pour nous dans cette affaire. Ainsi, à un premier niveau, il y a celui qui donne pour des choses et par devoir. C'est celui qui va dire, il faut bien payer le chauffage de l'église. Il a envie d'avoir chaud le sabbat matin. C'est celui qui va dire, il y a une fuite dans le toit, on est bien obligé de la réparer. je vais donner pour ça. Ou bien, si on n'était pas à l'église, on n'aurait pas tous ces frais, on ne dépenserait pas tous ces argents dans ces choses-là. Ça, c'est le premier niveau de celui qui donne par devoir, il le faut, c'est une nécessité, mais qui donne pour des choses. Dans sa vie chrétienne, cette personne va avancer et finalement donner toujours pour des choses, mais plus par devoir, par amour cette fois-ci. Et cette personne va dire, je suis fier de la belle église que nous nous sommes payés. Il faut avoir un beau lieu de culte. Il faut faire bonne impression pour attirer les gens. Il donne par amour, par fierté, mais pour des choses. En progressant dans sa vie chrétienne et dans son expérience de maturité chrétienne, cette personne va finalement donner pour des gens. Elle va dire, il faut bien payer les pasteurs. Ce n'est pas ce qu'ils font, mais enfin, on va les payer quand même. Ou bien alors, je donne pour les pauvres. Il faut lutter contre la pauvreté. Ou bien alors, je vais donner pour qu'on puisse faire de l'évangélisation et que ces gens puissent apprendre à connaître Jésus. Et je vais donner pour ces objectifs-là, pour ces gens-là. Mais en réfléchissant, le Seigneur nous conduit un petit peu plus loin. Il nous conduit à donner pour des gens, mais non pas de façon intermittente, de façon systématique, par principe. Et c'est celui qui va dire, je donne ma dîme chaque mois à l'Église. Ou bien alors, par mes offrandes, qui constituent à peu près une deuxième dîme, j'ai soutenu cette Église depuis sa fondation. Il y a là un élément supplémentaire qui est le fait d'apporter d'une façon systématique nos dîmes et nos offrandes, quoi qu'il arrive, qu'il y ait beaucoup ou qu'il y ait peu, que l'on soit présent à l'Église ou pas. Il y a cet élément supplémentaire de systématique. Le principe est acquis. Mais l'on donne ici pour des gens. L'étape suivante dans notre maturité spirituelle va consister à donner à Dieu. Dieu a tellement fait pour moi, j'aime lui donner ma dîme. Mais ce n'est pas encore devenu un principe. Je la donne quand je peux. Je la donne quand je suis émotionnellement frappé par l'amour de Dieu, et là j'apporte en abondance, mais pas d'une manière conséquente et systématique, pas par principe. Alors la sixième étape va être de donner à Dieu quoi qu'il arrive. Depuis que je donne ma dîme à Dieu, je suis en paix par rapport à toutes les questions relatives à l'argent. Chaque mois, je vis une expérience de foi avec Dieu, par ma dîme. C'est quelque chose qui est acquis et qui est construit comme étant régulier, qu'on ne va pas remettre en question, c'est acquis une fois pour toutes. Dieu sera servi en premier, quoi qu'il arrive. Et de cette manière, je marche avec foi. Quels que soient mes revenus, quelle que soit ma situation, quelle que soit mon humeur, quelle que soit l'importance des appels qui sont faits, je donne mes adieux, quoi qu'il arrive. La dernière étape, c'est celle que Jésus illustre. Lorsque, assis dans le temple, il attire l'attention des disciples sur cette veuve qui est passée près du tronc. L'évangile de Luc au chapitre 21 nous rapporte cet événement. Jésus appelle ses disciples et dit « Regardez cette femme, elle a déposé trois fois rien dans le tronc. Les autres sont arrivés avec des sacs pleins de pièces, bruyants, trébuchants. Ils ont renversé les pièces glou 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 dans le tronc. Regardez combien je donne. » Et Jésus dit « Ils n'ont rien donné ces gens-là. n'ont rien donné. Ils ont donné cet argent dont ils n'avaient pas besoin, c'était leur superflu. Cette femme là-bas, elle a donné de son nécessaire. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Jésus souligne par là l'esprit de sacrifice. C'est cette septième étape dans cette maturité chrétienne de celui qui, s'approchant de Dieu, apprend à lui donner pour de bonnes raisons. Et dans cet esprit de sacrifice, il va y avoir ceci. Au lieu de changer le mobilier de mon salon, j'ai donné à Dieu le montant que je voulais consacrer à cela. Au lieu de partir en voyage à tel endroit, j'ai choisi de donner cette année ce montant à Dieu. Et je le lui ai apporté par reconnaissance pour ses bienfaits envers moi. C'est là un esprit de sacrifice. Et le Seigneur nous invite à croître dans notre motivation pour lui être fidèle. Alors, où suis-je dans cette échelle à 7 barreaux ? À chacun d'entre nous de le savoir, mais où nous en sommes va refléter en réalité la qualité de ma relation avec Dieu. Parce que la dîme et les offrandes ne sont jamais une question d'argent. Toujours une question de ma relation avec Dieu. D'ailleurs, quelqu'un qui n'a pas d'abord fait le sacrifice de lui-même entièrement à Dieu n'arrivera pas à apporter sa dîme et ses offrandes dans l'esprit où Dieu le demande. Avant de pouvoir consacrer à Dieu les choses qui nous sont propres et qui nous sont chères, il faut que nous nous soyons nous-mêmes donnés à lui entièrement. Et c'est ainsi que la dîme et les offrandes deviennent pour nous un test, une illustration du salut par la foi et non par les œuvres. D'ailleurs, ce que Dieu nous demande est finalement bien peu. Vous vous souvenez, Jésus disait en son temps, « Les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants de la lumière. » Et je crois cela. Aujourd'hui, où que vous alliez, vous entendez parler d'investissement. Vous devez investir, c'est l'avenir. Mais ça veut dire quoi investir ? Écoutez, dans mon langage, à moi, investir, et s'il est des financiers dans la salle, pardonnez-moi, c'est jeter 1 000 $ par la fenêtre, espérant qu'il va en rentrer 10 000 par la porte. C'est ça. C'est peut-être une explication de quelqu'un qui ne s'y connaît pas, mais en fait, c'est ça. Investir, c'est jeter 1 000 $ par la fenêtre, espérant qu'il en rentre 10 000 par la porte. Mais c'est ce que les non-croyants font constamment, comptant sur leurs affaires, sur leurs magouilles, sur leurs combines pour que rentrent les 10 000 par la porte. Et les non-croyants le font constamment. Les enfants de la lumière, par contre, ont tellement de mal à faire confiance dans celui qui fait rentrer l'abondance par la porte. Et on entend... Je ne peux quand même pas mettre ma famille en difficulté en apportant ma dîme. Dieu ne veut quand même pas que je sois sur la paille à ce point-là. Ou bien on entend, j'ai tellement peu, Dieu ne va quand même pas m'enlever encore le peu qui me reste. Et je pense à ce que Élie demandait, donner de 12 cruches d'eau à une époque où il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Ou bien on entend encore, je vais d'abord payer mes dettes. Il faut que je paye mes dettes d'abord et puis après je paierai mes dettes envers Dieu. Ah ah, les hommes d'abord et Dieu viendra s'il en reste. Et je réalise tout d'un coup que les enfants de la lumière ont plus de mal à faire confiance dans le Dieu à qui appartient toute la terre et ce qu'elle contient qu'aux autres hommes qui ne sont pas dignes de confiance ou à ce Dieu qui ne répond pas. Avons-nous plus de facilité à faire confiance au Dieu qui ne répond pas qu'à celui qui répond avec abondance ? Ce que le Seigneur demande de nous, c'est une expression en fait, non pas de générosité, non pas de bienveillance, non pas même d'être des gens responsables qui payent les factures. Ce que Dieu réclame de nous, c'est une expression de foi, de confiance en lui. D'ailleurs, c'est ainsi qu'il essaye de nous entraîner à enraciner notre foi, non pas simplement dans des concepts, les uns meilleurs que les autres, mais dans la réalité de notre vie chrétienne. Lorsque, par exemple, nous reconnaissons avoir commis une faute, lorsque nous reconnaissons avoir péché, nous nous présentons à Dieu dans la prière et dans la solitude, nous disons à Dieu, « Seigneur, je reconnais que là, je suis tombé. Pardonne-moi. » Et nous nous relevons convaincus d'avoir été pardonnés. Mais quelle preuve en avez-vous ? Quelle preuve avez-vous en vous relevant de votre prière que vous avez été pardonné de votre péché ? Est-ce que vous allez recevoir le lendemain matin une lettre de la poste céleste ? « Ok, j'ai entendu ta prière, j'ai effacé. » Si ça vous est arrivé, tant mieux. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Quelle preuve avez-vous ? La seule preuve que nous avons, que Dieu nous pardonne lorsque nous le lui demandons, c'est que c'est écrit dans sa parole. L'apôtre Jean nous rapporte cette parole extrêmement importante. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et nous nous appuyons sur cette parole des Écritures. Et en nous relevant notre prière, nous croyons, par la foi, grâce au mérite de Jésus que nous avons été pardonnés. Nous nous appuyons là, par la foi. Mais nous nous appuyons en réalité sur notre expérience de confiance en Dieu. Nous n'en avons en fait aucune preuve. Mais Dieu nous dit non, non, non. Moi, je vais te donner la preuve. Et il nous propose la dîme. Et il nous propose le sabbat. En nous disant, voilà, mets-moi donc à l'épreuve. Mets-moi donc à l'épreuve. Coince-moi. Et tu verras si je n'ouvre pas pour toi, pas le robinet, les écluses des cieux. Oh, peut-être pas en bénédictions matérielles qui feront que je pourrai avoir ma Cadillac demain, non. Mais les bénédictions de Dieu vont au-delà du matériel et de ce que nous ambitionnons parfois. Ainsi, lorsque nous avons fait l'expérience avec Dieu de voir à quel point, en le mettant à l'épreuve, il répond, que ce soit pour la fidélité au sabbat, que ce soit pour la fidélité dans la dîme, nous avons de première main une expérience qui peut nous dire, par laquelle nous pouvons dire, je sais que quand Dieu me promet de prendre soin de moi suite à ma fidélité, il le fait. Et si Dieu est fidèle dans sa promesse pour des choses passagères comme l'argent, ne le sera-t-il pas à plus forte raison pour les choses éternelles relatives au royaume des cieux et à l'éternité et à mon salut en Jésus-Christ ? Ainsi, je réalise que, en mettant Dieu au test pour la dîme et pour le sabbat, et pour les choses pour lesquelles il demande qu'on le teste et qu'on lui obéisse, il me donne des outils pour que ma foi, dans les choses que je ne vois pas, s'appuie sur une expérience personnelle avec lui. Il est donc terriblement dommage de se priver de cette expérience avec lui. Dans un commentaire écrit au siècle passé, je lis cette interpellation. Tout récemment, des instructions m'ont été directement données sur cette question, à savoir que beaucoup d'adventistes volent Dieu dans la dîme et les offrandes. Il m'a été clairement montré que Malachie décrit la situation exactement telle qu'elle est. Malachie a-t-il écrit pour notre Église ? Et un peu plus loin, dans un autre commentaire, Dieu a donné à l'homme les 9 dixièmes et réclame un 10e pour un usage sacré. Il a aussi donné à l'homme 6 jours pour son œuvre et s'est réservé le 7e jour pour lui-même. Le sabbat, comme la dîme, est réservé à un usage sacré. Si vous n'avez pas encore eu la curiosité de mettre Dieu à l'épreuve à ce point-là, je vous invite à le faire. Je vous invite à recevoir cette interpellation de Élie au Carmel, cette interpellation de Malachie qui termine notre Ancien Testament, et à mettre Dieu à l'épreuve dans les choses concrètes de notre vie. Souvenez-vous que cette dernière page dans laquelle se trouve cette interpellation de Malachie nous rappelle aussi que Dieu va envoyer l'Élie à la fin des temps pour nous rappeler ces choses, pour nous ramener aussi à Dieu, pour ramener le cœur des enfants de Dieu à leur Père céleste. C'est dire à quel point nous qui attendons le retour de Jésus avons besoin de laisser le Christ rentrer dans chaque domaine de notre vie, pas seulement de nos concepts, de nos idées, de nos doctrines, mais dans chaque aspect concret, pratique de notre vie. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a placé dans cette dernière page de l'Ancien Testament ce message, qu'il a attaché au message d'Élie, pour que ceux qui vivent à la fin des temps entendent cet appel avant que Jésus revienne. D'ailleurs, Dieu nous a donné quelques années de vie pour voir s'il pouvait nous donner sans danger l'éternité à vivre. Le Seigneur nous a donné quelques talents aux uns et aux autres pour voir s'il pourrait un jour nous donner des possibilités illimitées dans son royaume. Le Seigneur nous a donné une petite partie de ses richesses pour voir s'il pourrait un jour nous confier les richesses infinies et éternelles de son royaume. Alors je me demande, comment vais-je gérer ces petites choses que Dieu m'a confiées en attendant de me les confier dans la dimension infinie de sa toute-puissance. Et je me demande, pour moi comme pour vous, Dieu pourra-t-il me dire « Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Amen.